On va démarrer tout de suite cette première édition, première émission des correspondances 2017 avec le directeur des correspondances, Olivier Chaudançon. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Il y a du soleil, ça se présente bien.
Ben, c'est pas mal, ouais, j'ai l'impression que ça peut bien se passer.
C'est la 19e édition. C'est donc un galop d'essai avant la 20e et le 20e anniversaire des correspondances, une manifestation qui s'inscrit bien dans le territoire manosquin.
Oui, ça j'espère, mais c'est pas un galop d'essai avant la 20e. Figurez-vous qu'on essaye de faire chaque édition comme si c'était la dernière, d'une certaine façon, en tout cas en termes d'énergie, de désir et de programmation. Donc attention, il ne faut pas enjamber cette édition.
Avec de très beaux plateaux, avec de très beaux spectacles qui sont proposés cette année.
Oui, je crois, avec déjà le très grand plaisir de commencer avec une auteure américaine que nous aimons beaucoup, Laura Kosciuszko. Nous avons la chance qu'elle soit présente à Manosque. Nous allons inaugurer cette édition avec elle. Et puis dans la soirée, ces mots poursuivront l'ouverture du festival. Ils seront portés cette fois-ci lors d'une lecture par Ludivine Sagné. Je crois qu'on a essayé de concevoir quelques très belles soirées, mémorables, je l'espère.
L'inauguration officielle, c'est toujours un temps un petit peu institutionnel, mais en même temps un temps fort pour l'association Les Mille et Une Nuits de la Correspondance.
Oui, institutionnel, parce que bien sûr, chacun représente qui un financeur, qui une collectivité. Mais c'est normal, on fait un travail d'équipe, donc il faut leur donner la parole. Et puis, il y a un petit pincement au cœur, voilà, on y va. C'est vrai que quand le festival approche, moi j'ai envie que ça démarre. Donc le temps juste avant est un temps un peu... On veut y aller, on veut accélérer le temps. D'ailleurs, on a réussi à accélérer le temps, puisque figurez-vous qu'on fait une sieste acoustique, musicale et littéraire, à 15h aujourd'hui, ça c'est une nouveauté, avant même l'inauguration.
Oui, en même temps, on va en parler des siestes acoustiques, si vous voulez bien, parce que c'est une des innovations de cette édition. Les siestes sont de notre ami Bastien Lallemand sont maintenant payantes pour éviter des frustrations. Effectivement, des gens qui ne pouvaient pas assister aux siestes, vous avez été obligé de faire un droit d'entrée.
Oui, parce que j'assistais chaque année à des gens excusez-moi, qui étaient mécontents parce qu'ils avaient fait la queue et puis il n'y avait plus de billets. Et puis le lendemain, ils revenaient, ils refaisaient la queue, il n'y avait plus de billets. Et là, ils finissaient furieux. Et je me suis dit, le festival n'est pas là pour énerver, pour créer de la frustration. Cette salle, est-ce qu'elle est? Elle n'est pas immense, elle fait 90 places. Et puis c'est une forme qui ne supporte pas le gigantisme. Donc pour mieux gérer ça, on a décidé de faire payer les siestes. Alors très peu cher, 5€, je crois que ça laissera personne de côté. Mais ça présente un avantage, c'est qu'on peut réserver à l'avance... acheter son billet par internet ou sur place. Si on a son billet en main, on est sûr de pouvoir y aller et on fait pas la queue. Et s'il y a plus de place, c'est pas la peine non plus de faire la queue et on va voir autre chose. Voilà, donc c'est plus pour réguler et ne pas gérer de la frustration que nous avons fait ça.
On va rappeler que le principe des siestes littéraires, c'est d'être parfois allongé et d'écouter, de passer un moment à écouter des textes et des chansons. Les auteurs d'ailleurs des correspondances sont invités à participer aux siestes littéraires, mais pas pour dormir.
Non, si possible non. Il y a un groupe de musiciens qui constitue la base hein, autour de Bastien Lallemand, Maëva Lebert, J.P. Nataf, Pascal Parizeau. Et en effet, chaque jour... deux écrivains du festival sont invités à rejoindre cette petite équipe de façon à faire alterner les chansons et les moments de lecture. Et en effet, le public écoute allongé dans la pénombre quelque chose qui est purement acoustique. Donc ça ouvre l'oreille. L'écoute devient très différente et très forte.
Olivier Chaudançon, lorsque vous avez présenté l'édition 2017 au Centre littéraire et culturel Jean Giono, vous avez parlé d'un projet important qui m'a touché, moi personnellement, c'est la bourse Jean-François Michel. On va rappeler qui était Jean-François Michel, l'ancien président des correspondances, qui est décédé maintenant, mais c'était aussi un grand monsieur dans le domaine de la musique, et j'ai des souvenirs particuliers de Jean-François, nous laissant un ou deux disques en partant d'ici, de la radio, et nous faisant découvrir des musiciens extraordinaires. Vous allez lui rendre hommage avec cette bourse.
Oui, on le souhaitait parce que c'était un homme remarquable, à des tas d'égards, généreux, un grand professionnel de la musique. Et puis, il s'était passionné pour les correspondances. Il avait acheté une maison à Manosque. Il comptait en faire une résidence d'artiste. Il n'a pas pu, mais il s'est passionné pour les correspondances. Ça l'a emmené vers un territoire qui n'était pas celui d'origine pour lui, la musique, mais vers la littérature. Il m'a glissé parfois quelques noms de musiciens très précieux. En effet, je me souviens par exemple exemple, que c'est lui qui m'a présenté Jacques Courcil, un musicien de jazz extraordinaire qui est venu à Manosque il y a quelques années. Voilà, donc on avait vraiment envie de perpétuer sa mémoire. Le professionnel, l'homme généreux et l'homme tout court que nous aimions beaucoup, et nous allons créer cette bourse qui va prendre la forme d'un appel à projet auprès de jeunes artistes, jeunes écrivains, en leur disant faites-nous part de vos projets en matière de croisement littérature et musique, des projets qui peuvent comporter des innovations aussi, et puis bah, on va sélectionner ces projets, on va accompagner deux artistes ou deux équipes d'artistes ou deux auteurs, on verra comment les choses se constituent pour pouvoir réaliser ce projet que l'on montrera, fera entendre ici aux correspondances.
En fait, c'est la consécration et la concrétisation surtout de l'idée majeure des correspondances de mélanger les mots et la musique, par exemple.
Oui, c'est un des sens de correspondance. Correspondance, tout le monde le perçoit, ce sont les lettres et on les fait écrire, on les fait entendre, mais c'est aussi les correspondances baudelairiennes, les alliances, les résonances. Et c'est vrai que dans ce registre-là, littérature et musique font particulièrement bon ménage. Moi, ça m'a toujours passionné. J'aime autant la littérature que la musique, et c'est peut-être pour ça que j'ai fait naturellement des croisements. La première édition des correspondances, René s'en souvient certainement, nous avions accueilli Jacques Higelin. Tout de suite, on a démarré sur ce registre-là, et c'est devenu en effet une identité forte du festival. Et même, je crois que c'est à l'origine de quelque chose qui est plus qu'une mode, puisque c'est vraiment en train de s'ancrer. Il y a de plus en plus de tentatives de croisement, enfin plus que des tentatives, des réussites d'ailleurs. La musique peut être un magnifique révélateur de la musique et peut être aussi un outil pour faire venir un public plus large qui ne se serait peut-être pas autorisé à venir parce que la littérature, ça reste quand même quelque chose qui effraie une partie du public. Donc nous, on s'évertue à montrer que non, ça peut être pour tout le monde. Et la musique nous aide à faire passer ce message.
Avec ce beau croisement, des fois c'est la musique qui passe devant les mots, des fois ce sont les mots qui passent devant la musique, et c'est très bien, ça demande un exercice au public, c'est pas plus mal. Je vais vous poser la question que vous redoutez le plus, Olivier, généralement quand je vous interviewe. Sur cette édition 2017, quels sont vos coups de cœur ?
Je redoute pas cette question, je refuse d'y répondre, donc c'est pas grave. Non, écoutez, quand on invite des gens comme ça, une quarantaine d'écrivains, ça veut dire qu'on a envie de les défendre tous, et puis ils sont tous très différents, donc justement c'est une proposition qui est faite au public et à l'intérieur de laquelle le public peut évoluer librement, suivre son chemin en fonction de ses goûts, ses affinités, ses curiosités, voilà. Peut-être puis-je dire que j'ai une petite tendresse pour des auteurs qui ont séjourné plus longuement à Manosque, c'est-à-dire ceux qui ont été nos résidents. Il se trouve qu'on en a trois cette année qui ont écrit un livre là pour cette rentrée de septembre. Il y a Julien Delmer, notre résident actuel. Il y a Pierre Ducrozet qui revient avec un très beau livre, L'invention des corps, publié chez Actes Sud sur un sujet très contemporain, le transhumanisme et tout ce que ça véhicule de folie. On peut le dire quand même. Et puis Alice Zeniter qui revient avec le magnifique livre L'art de perdre. Déjà rien que le titre, on est saisi. Dont l'élaboration mentale en tout cas a commencé ici, puisque lorsque Alice a fait sa résidence, elle a été voir l'emplacement du camp de Jouk où sa famille, son grand-père, Arki ont été assignés en résidence. C'est une résidence moins douce que celle qu'on propose aux écrivains pendant plusieurs années. Voilà, donc je pense que ça a été un des éléments déclencheurs de son livre. Donc voilà, je dis ce mot pour nos résidents parce que voilà, ils nous accompagnent plus longuement. Et je peux même dévoiler un petit scoop, c'est-à-dire le résident qui va remplacer Julien Delmer.
Oui.
Et qui est dans cette programmation par ailleurs et qui se nomme Miguel Bonnefoy.
Alors pour ce qui est des anciens résidents, je vais vous rendre satisfait aussi, Olivier, ils seront invités ici même pendant nos plateaux. Évidemment, on a des liens de confiance et d'amitié qui se sont créés entre Pierre Ducrozet, Alice Zeniter et puis bien sûr Julien Delmer. Moi, si vous permettez, je vais vous donner deux petits coups de cœur intéressants avec deux thématiques. La thématique tout d'abord, et on va retrouver Julien Delmer, la thématique de Montmartre et de ce Paris particulier du début du XXe siècle, où on va retrouver les sœurs Anne et Claire Bressé, qui vont Berest, qui vont présenter Gabriel, un roman magnifique, alors que Julien va présenter Minuit Montmartre, ou Montmartre Minuit, je ne sais plus, peu importe. En tout cas, ce sont deux livres magnifiques. Donc, première thématique, ce Montmartre très particulier du chat noir, du lapin agile, etc. Et puis, la vie de Picabia aussi, d'un peintre, et toute cette dynamique particulière et cette effervescence du début du XXe siècle. Deuxième thématique, c'est la thématique d'Haïti, avec Louis-Philippe d'Alembert, qui a écrit un livre magnifique, et James Noel aussi, qui viendront nous parler de ce petit pays qui a souffert et qui souffre encore, puisqu'on sait que les ouragans passent en ce moment sur les Antilles et n'épargnent pas Haïti. C'est bien aussi de faire des rencontres comme ça, avec des croisements qui se passent sur scène.
Oui, tout à fait, mais vous avez raison, et moi j'ai raison de ne pas répondre à la question de ce que je préfère, parce que vous voyez bien que chacun peut se faire son chemin, y compris géographique. Oui, Haïti, en trêve de plaisanterie, moi je suis très sensible à ce pays, il a à la fois beaucoup souffert, voilà, donc on a envie de les aider un petit peu, dans la mesure de nos moyens, et puis surtout, ils ont une littérature absolument exceptionnelle par rapport à cette population, pas si nombreuse que ça, très pauvre, etc. Ils ont très grands écrivains, on se souvient ici de Julien Delmer, pas de Julien Delmer, excusez-moi. J'allais dire Dany Laferrière, voilà, qu'on a reçu à plusieurs reprises, de Mackenzie Orcel, qui était venu en résidence aussi à un moment, voilà, donc c'est une littérature vers laquelle on a envie de faire des signes amicaux.
Très puissante, et puis le dernier livre de Louis-Philippe d'Alembert qui rend hommage aussi à la langue française et à la culture française, très important puisque c'est un des thèmes aussi des correspondances que l'on retrouve régulièrement, cette culture de la langue et la culture de la culture tout simplement. Merci Olivier, bonne correspondance. Je vous rappelle que cet après-midi nous avons rendez-vous pour faire quelques interviews avant évidemment le démarrage officiel, c'est à 17h sur la place de l'Hôtel de Ville. Et à 18h, première rencontre littéraire avec Laura Kaczyszke, c'est ça ?
Absolument, c'est ça.
Merci Olivier, à très bientôt.
Merci.
C'est un ami et un complice de la radio grâce à l'émission qu'on a mise en place déjà quelques années auparavant, Jean de Manosque. Il s'agit bien sûr de Jean Giono, et cet ami c'est le président de l'association des amis de Jean Giono, Jacques Méni. Bonjour Jacques.
Bonjour François.
Jacques Méni et les amis de Jean Giono qui sont évidemment partie prenante des correspondances 2017.
Nous avons pris depuis 2012 un certain rythme de croisière pour proposer le samedi matin entre 11h et midi dans les jardins de la maison de Giono une lecture d'échanges épistolaires entre Giono et X correspondants. Alors je crois qu'on a eu la correspondance avec Gide pour en 2012, puis avec Henry Miller, puis les lettres à ses parents de la guerre de 14, l'année dernière la correspondance avec la NRF et la famille Gallimard. Et puis on a eu aussi un partenariat formidable qu'il faudra qu'on renouvelle sur une opération commune avec les correspondances, qui était la vente fictive du trésor d'archives de Giono, et qui a été, je crois, un des grands moments qui est resté dans les mémoires de tous les participants,
oui.
Que ce soit les acheteurs, les animateurs et les spectateurs. On m'en parle encore. Voilà.
Et cette année, donc, vous allez mettre l'accent sur ces lettres, ces courriers que se sont échangés Lucien Jacques et Jean Giono. Vous pouvez nous rappeler qui était Lucien Jacques ?
Oui, Lucien Jacques était un poète et surtout un peintre et encore plus un aquarelliste, qui était un peu plus âgé que Giono, de quelques années, et qui, en découvrant dans une revue marseillaise en 1922 un poème, le premier poème en prose publié de Giono, qui s'appelle « Sous le pied chaud du soleil », a détecté, en quelque sorte, une plume, une écriture, lui a écrit, et la correspondance a commencé de cette manière. Avant, pendant 2 ans, ils ne se sont pas rencontrés, ils n'ont fait que s'écrire. Et Lucien Jacques, c'est une très grosse, très volumineuse correspondance, donc j'ai choisi vraiment une période, et j'ai beaucoup serré dans cette période, sur une idée, c'est qu'entre 1922, donc, et 1929, qui est la période de cette lecture, Lucien Jacques va en quelque sorte, je dirais, accoucher l'écrivain Giono, en tout cas aider à l'émergence de, parce que Giono voulait écrire, ça c'était certain, mais il avait une très grande conscience de ce qu'il voulait faire, de ses moyens, de ses progrès, mais il était seul ici, seul avec ses lectures, et l'apport de Lucien Jacques a été considérable dans ces années-là. Alors à partir de 1930, Giono avait publié Colline, Anne Beaumune, Regain, etc. S'est affranchi totalement des conseils de Lucien Jacques, mais pendant toute cette période, les conseils de lecture, les conseils de vocabulaire, il y a des pages entières de corrections, de suggestions. Alors Giono garde ou garde pas, et on termine d'ailleurs sur un petit échange comme ça sur des corrections de Anne Beaumune qui sont assez amusantes. Ça a été il se traite de garçon d'honneur des noces de Giono avec l'édition et la littérature, en quelque sorte il se qualifie comme ça, et oui, il a été le passeur aussi vers le milieu de l'édition, parce que il connaissait Poulaï chez Grasset, qui était le responsable du service de presse de Grasset, et il avait des contacts à Paris, Lucien, ce que n'avait pas Giono, qui était sous-directeur d'une banque. Bon, mais il a aussi consolidé et vraiment permis à Giono d'affirmer, ce que je disais là, mais ce feu intérieur qui va le consumer toute sa vie. Et il parle, lui, une fois qu'il a eu fini Colline, il dit c'est le feu intérieur qui ne pourra plus jamais s'éteindre. Et il dit c'est la plus grande distraction. En 1929, on a déjà un roi sans divertissement qui est là. Il dit c'est ma plus grande distraction. C'est une belote que je joue avec moi-même tous les soirs d'écrire. Et donc on a ce parcours, donc j'ai appelé ça naissance d'un écrivain. On voit vraiment à travers ses lettres comment se construit en quelque sorte Giono jusqu'au moment du succès phénoménal qui a été Colline à l'époque, en 1929, avec en 28, Giono est un inconnu, en 29, débarque à Manosque, non pas pour les correspondances, mais pour voir Giono, le gratin de la littérature française. Se succèdent André Gide, Blaise Cendrars, Léon-Paul Fargue, Adrienne Monnier, qui était libraire, Gabriel Marcel, Ramon Fernandez, voilà, ils viennent attendre à la sortie de la banque que le dénommé Giono ait fini sa journée pour discuter avec lui. C'est extraordinaire comme un truc. Et ce succès de Colline, sur lequel on s'arrête dans cette lecture, suivi tout de suite après de Anne Beaumune la même année, il y a une phrase que j'aime beaucoup dans la correspondance de Lucien Jacques. Dans cette correspondance, à un moment, il lui dit en 29, tu es en route pour le Goncourt, qu'il n'aura jamais, pour le Nobel un jour, que je n'aurais bien aimé avoir. On va te lire, t'aimer d'un bout à l'autre du monde, mon ami Jean. Et ça, c'est la réalité.
Il a quand même siégé à l'Académie Goncourt, Jean Giono.
Oui, donc ça, c'est bien. C'est pas le prix Nobel.
on peut ajouter aussi quand même que Lucien Jacques était un personnage et un créatif de premier plan.
Ah, tout à
un
fait.
Un aquarelliste magnifique, un fresquiste.
Un tisserand.
Un danseur, un poète.
Et là, justement, c'est au moment de la mort de la femme qu'il a le plus aimée ou admirée, je ne sais pas, enfin, la mort d'Isadora Duncan, qui est aussi envisagée dans cette
danseuse.
Lecture, et dont il s'apprêtait à collaborer à l'écriture des mémoires d'Isadora Duncan, et puis il y a eu donc la fameuse mort d'Isadora, étranglée par son écharpe dans la voiture, et donc oui, c'était un des grands, le grand amour de Lucien Jacques, c'était Isadora Duncan.
On vous retrouve donc pendant les correspondances pour toutes ces visites et les lectures qui sont,
oui,
qui
alors,
sont proposées.
Visite au Paraïs, sur réservation au Centre culturel et littéraire Jean Genot, avec un écritoire permanent dans le jardin. C'est vrai que c'est beaucoup de spectateurs, de personnes qui viennent pour les correspondances, se font un plaisir de venir écrire dans la maison de Genot pour... Ça marque quand même un peu le... Ça donne une couleur.
Oui, voilà, on va dire sans faire de concurrence à
l'écrivain. Oh, il ne s'agit pas de concurrence, mais bon, pour certains,
ça peut inspirer.
Ça a un charme particulier d'écrire dans la maison de Genot.
Oui, tout voilà. À fait. Et pour avoir fait quelques émissions dans les jardins du Paraïs, là aussi, on a une émotion très, très spéciale quand on est là-bas. Notre ami René Frény nous a rejoint, et je vais en profiter pour, avant de parler des morts au prix des vivants, des vivants au prix des morts, c'est bien ça, René ?
Comme tu veux, tu choisis.
Évidemment, on se tutoie, on se connaît depuis tellement longtemps. René, pour toi, Genot, c'est quelqu'un de particulier. C'est lui qui t'a sorti la tête de l'eau, en gros, avec Colline.
La tête du trou, j'étais dans un trou. On dit à l'armée, il est au trou. J'étais dans une prison militaire à Metz, puis à Verdun. Et l'aumônier m'a apporté Colline de Genot. Je n'y voyais pas, je ne portais pas de lunettes. Dans ce trou, on y voyait encore moins. Et l'aumônier m'a apporté des lunettes et Colline. Et j'ai lu le livre dans la journée. Je crois que ça a été le premier livre que j'ai lu réellement de ma vie, puisque n'y voyant pas, je traînais dans les rues, je n'allais pas à l'école, j'ai connu tous les garnements de Marseille autour du Vieux-Port, ce que je retrouve depuis 20 ans au Beaumet d'ailleurs. Et peut-être que le livre m'a sauvé, parce que après ces 6 mois de prison où je fréquentais dans cette prison pas simplement des insoumis et des déserteurs, mais des délinquants déjà, il y avait des braqueurs, il y avait des voleurs. Et j'aurais pu peut-être partir avec eux sur les routes de la délinquance. Et j'ai découvert que le vrai voyage était dans la lecture, puis dans l'écriture. Et Colline de Genot a été le démarrage de cette vie d'écrivain.
Nous allons en reparler évidemment tout à l'heure pour parler de ton livre, René. Tu accompagnes aussi une visite pendant les correspondances sur les pentes du Mont d'Or à Manosque. C'est un endroit qu'affectionnait Jean Genot aussi.
Oui, on m'a demandé de me promener un peu avec des handicapés moteurs qui seront sur des joëlettes, des véhicules un peu bizarres, mais qui sont tout terrain. On va parler de Manosque, de la littérature, de la poésie, du voyage, et puis de cette fête, les correspondances, qui est unique. Hein. Je fais Saint-Malo, où on rencontre des voyageurs du monde entier, le festival du premier roman, où je suis invité régulièrement, et puis Manosque, qui est quand même une fête insolite. C'est pas uniquement des écrivains qui attendent la dédicace, comme dans beaucoup de fêtes du livre qui se ressemblent et où on s'ennuie profondément. Et là, au moins, pendant 3 jours, les écrivains sont mêlés à la population, aux terrasses, dans les rues. On parle de littérature partout en buvant un café. Et les lecteurs deviennent des écrivains, puisqu'il y a ces écritoires. Tout lecteur devient un écrivain. Donc, il n'y a pas de mur entre la lecture et l'écriture, entre l'écrivain et... nous sommes ensemble pendant 3 jours, n'importe qui est capable d'interpeller un écrivain, de s'asseoir, de boire un café avec lui et de discuter pendant des heures, ce que je fais moi pendant 4 jours. Et ça, c'est unique. Une petite ville qui invite 40 écrivains à passer 3 jours avec la population. Alors j'étais à Fuveau la semaine dernière, c'est pas mal Fuveau, mais ils avaient mis des flics à l'entrée du village de tous les côtés. On était fouillés et pour le terrorisme. Et je pense que pour éviter à une ville le terrorisme, il ne s'agit pas de mettre des flics à toutes les entrées, de fouiller les sacs. Il faut faire rentrer les mots, les livres, les écrivains dans la ville, la culture dans la ville. C'est le seul rempart contre le terrorisme. Faire rentrer des mots et des livres, c'est ce que nous faisons ici. Et je crois qu'on a fait le bon choix, c'est culture ou barbarie. On ne luttera pas contre la barbarie par des flics, on luttera contre la barbarie par des mots et des livres partout.
On sait très bien qu'il n'y a jamais eu de braquage de librairie, René, et c'est plutôt les boutiques d'informatique et de fringues qui sont braquées, pas du tout les librairies, et c'est tant mieux.
Tant mieux.
Mais bon, on verra ça plus tard. René, tu étais aussi un habitant de la place de l'Hôtel de Ville, et tu l'es toujours, à Manosque, donc forcément le nez sur la place principale des correspondances, là où va se dérouler d'ailleurs tout à l'heure l'inauguration. Quand on prend de la hauteur comme ça par rapport au festival, tu habites au 3e ou 4e étage, on a une vision qui est à la fois interne et externe au festival.
Pas du tout. Non, moi je préfère la vision de la rue, parce que dès le matin je descends, ce que je fais tous les jours, je bois chaque jour mon café sur une place différente, et là je descends un peu plus tôt, parce qu'il y a tous les lecteurs, et c'est encore plus émouvant de discuter avec ces gens qui arrivent, mais du monde entier, quand je parlais de Saint-Malo, Manosque aussi reçoit des gens du monde entier, pas simplement des Parisiens, des Suisses, des Belges, mais du monde entier, on vient aux correspondances, et dès le matin, moi, je viens de boire un café, c'est pour ça que j'étais en retard, au Cigaloun, avec des lecteurs qui m'ont interpellé, qui m'ont invité au café, ça c'est unique, je ne les connaissais pas. Ils m'ont fait signe et voilà, je viens de boire un café avec des gens que je ne connaissais pas et on a discuté pendant une heure de littérature.
Et il t'arrive souvent de boire un café avec des gens que tu connais aussi à Manosque, fort heureusement. On va parler avec toi, René, tout à l'heure des vivants au prix des morts, ton dernier roman qui est paru chez Gallimard. Je voudrais présenter, je ne sais pas si tu la connais, Patricia Boucher qui nous a rejoint. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Elle est un petit peu anxieuse parce que c'est sa première radio. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors vous, Patricia, vous avez vous êtes photographe et vous avez eu une idée un peu particulière que vous avez proposée ensuite à Olivier Chaudançon. Vous avez flashé, c'est le cas de le dire, sur les mains des écrivains qui sont invités aux correspondances, et vous proposez une exposition au Centre Giono de ces photos très particulières. Comment est née cette idée ?
Alors, tout d'abord, j'en profite d'avoir Olivier Chaudançon à côté de moi pour le remercier. Pour le remercier vivement de me permettre de montrer ce travail-là. Et effectivement, avant de proposer cette exposition, j'étais festivalière de ce festival de Manosque, de correspondance. Et je faisais des photos à titre personnel, jusqu'au jour où, par hasard, j'ai fait des photos d'un écrivain qui dédicaçait. Et c'est en voyant à l'écran cette photo que je me suis dit, ben, pourquoi pas parler des écrivains en parlant de leurs mains, en montrant leurs mains et en décodant un peu le langage qu'ils ont, parce que les photos sont toujours prises quand ils sont interviewés, et c'est là que leurs mains parlent. Il y a souvent des gestes qui reviennent et qui sont assez symptomatiques de ce qu'ils sont. Voilà. Donc c'était poser un regard sur ce langage particulier que je dis qui est peuplé de mots silencieux, c'est-à-dire que on les lit, on les écoute, mais aussi regarder leurs mains et voir ce qu'elles disent au moment où ils parlent, eux. Ça, c'est un regard que j'aime beaucoup.
Il y a de fort belles mains, d'ailleurs, les mains de... Oui, c'est vrai. C'est
toutes
vrai.
Sont belles.
On ne va pas donner de nom, comme ça on est tranquille.
Non,
mais il y a aussi... votre œil de photographe qui fait que vous interprétez en fonction des œuvres littéraires.
Oui.
Par exemple, si on voit Gaël Faye un petit peu flou, c'est évidemment voulu. Si on voit Alain Mabankou de manière très précise, c'est aussi voulu. Et si on voit très peu le visage de Pierre Ducrozet, c'est pareil. Donc il y a une interprétation artistique.
Oui, parce que chaque portrait, par exemple pour Pierre Ducrozet, à l'époque je faisais l'interview en médiathèque et il sortait Heroica sur la vie de Basquiat, romancé. Et Heroica étant une symphonie de Beethoven en quatre mouvements, je voulais que le portrait, la première partie le présente comme chef d'orchestre, voilà, parce qu'il rentre dans le sujet, il a des poses de combat, etc. Et la deuxième partie à côté, elle représente les quatre mouvements de cette symphonie, où il va la création de son roman, Heroica. Création, maturation, et jusqu'au faire part à la fin. Voilà. Donc chacun, il y a le texte qui accompagne les photos, qui décrit, quand je les vois, leurs mains qui bougent et ce qu'ils racontent. Et il y a après, monté en expo, à chacun, essayer de... qu'est-ce que ça leur ressemble.
Voilà. Avec aussi le portrait de l'écrivain, donc ça permet de se dire, tiens, je connais Marcus Malt ou je connais Carole Martinez, mais après on a effectivement plonge vers les mains. Je ne sais pas si vous le savez, mais la main de Jean Giono a une histoire particulière.
Oui.
Je ne sais pas si Jacques veut nous la raconter, cette main en argent qui trône sur
en bronze
au Paraïs.
C'est la main moulée sur son lit de mort, mais avec cette chose particulière, c'est que, bah oui, on l'a raconté ici, puisqu'on a reçu, on a reçu le prothésiste dentaire Maurice Gamard qui a fait ce moulage. Il a mis très longtemps, il m'a dit j'ai mis 2 heures pour faire, parce qu'il a remis les doigts dans la position où Giono tenait son porte-plume, c'est-à-dire qu'il tenait son porte-plume par le bout du porte-plume et pas contre son doigt. Donc on a la main de Giono en position d'écriture, bien que moulée sur son lit de mort. Et voilà.
Et c'était le 10 octobre 1970, autrement autrement dit, le lendemain, le jour où on a retrouvé le corps de Jean
oui,
Giono
dans sa chambre,
sans vie au Paraïs. Et c'était une excellente idée, une idée qu'a eue Élise Giono. Vous avez vu cette main, Patricia?
Oui, j'ai visité la maison du Paraïs et j'ai vu et je compte bien en faire quelque chose. Très, très prochainement.
On va suivre ça avec grand intérêt. Jacques ne vous a pas dit, mais dans l'émission dans laquelle nous avons parlé de cette main et du prothésiste de Maurice Guémard qui avait fait cette prothèse, c'est certainement, c'est ce que vous disiez, Jacques, c'est certainement l'endroit de son corps que Giono a le plus regardé dans sa vie, puisqu'il écrivait avec cette main.
Et c'est une des parties de son corps qui l'a fait énormément souffrir au point qu'il était bloqué. Il ne pouvait plus écrire à cause des douleurs, puisqu'on en parle peu, mais c'est quelqu'un qui a eu des souffrances physiques énormes dans sa vie, et très jeune, dès la trentaine. Et le martyr pour quelqu'un dont c'est le feu intérieur d'écrire, ne pas pouvoir écrire. Et c'est à ce point que même pour prendre des notes, on les reconnaît tout de suite, il a fait des exercices, il a recopié toute une étude sur Stendhal de la main gauche. On a le cahier comme ça, pour essayer d'arriver au moins à prendre des notes de la main gauche quand il ne pouvait plus écrire avec cette main droite. Car comme toute son œuvre a été écrite à la plume, évidemment, il n'a jamais touché une machine à écrire. Une fois, il a essayé de dicter, mais c'était long. Il avait besoin d'une plume dans ses mains et du papier sur lequel il traçait ses belles lignes d'écriture, dont il était fier, puisqu'il disait qu'il contemplait ses manuscrits, ses anciens manuscrits, rien que pour le plaisir de l'œil.
On peut dire qu'il avait un besoin énorme et physique d'écrire.
Un besoin sensuel, c'est lui-même qui le dit. Hein. Un attachement sensuel au geste d'écrire sur un papier précis, avec un papier qui fait un bruit précis, qui a une couleur précise, une encre précise. Et si ça ne colle pas tout ensemble, l'œuvre patine. Voilà.
Patricia, vos photos qui sont exposées actuellement au Centre culturel et littéraire Jean Giono à Manosque, il y a des photos, moi, qui m'ont particulièrement plu, et ça n'a probablement rien à voir avec la personnalité qui est en photo. C'est celle de Sylvain Prudhomme, par exemple, avec beaucoup d'expression au niveau de ses doigts, des doigts fins particuliers. Et puis, évidemment, Alain Mabankou, et qui, en plus de ses mains, vous a même demandé de photographier ses pieds.
Oui.
Expliquez-nous.
Non, parce que, il m'a offert sur un plateau l'angle par lequel j'allais parler de lui. Donc, il était en interview, j'ai pris mes photos, et comme pour chacun, à la fin, je vais les voir, je leur explique, voilà, j'ai pris des photos de vos mains, je leur demande l'autorisation, ils me donnent leurs coordonnées pour que je leur soumette après le texte. Donc, voilà. Et puis, je le vois passer derrière, il s'installe, il fume avec son portable, et puis je partais et je lui fais signe, je lui dis, ça vous dérange si je reprends quelques clichés hors scène? Non, et il me dit, vous voulez quelque chose de cocasse? Je dis, soit. Et il sort de sa poche ses lacets, il avait fait tout l'interview avec ses souliers non lacés, donc il a commencé à remettre ses lacets, et là il m'a offert, je me suis dit, lui qui aime tant la langue française, je suis partie sur enlacer la langue française, chausser le verbe, voilà, le texte est parti, il m'a offert l'angle, lui c'est un pur cadeau.
Oui, Mabankou et ses œillets, hein. C'est très étonnant. Et c'est vraiment lui, ça, en plus. Une belle chose, et c'est visible, bien sûr, au Centre Giono jusqu'à la fin du mois, c'est ça?
Jusqu'au 30 septembre, effectivement.
Jusqu'au 30 septembre, c'est à voir, parce que ça nous questionne un petit peu sur la gestuelle. Et en même temps, c'est figé, une gestuelle qui est figée, donc c'est assez superbe. Vous allez continuer dans ce domaine?
Tout à fait, j'attends avec gourmandise la nouvelle édition du festival, parce que voilà, j'ai lu beaucoup les auteurs et voilà, j'attends d'aller chercher chez eux à chaque fois quelque chose pour parler d'eux, de montrer quelque chose de différent. Et la main, c'est plein de symbolique, donc voilà, j'espère que
avoir la main de Mazarine Pinjot, qui sait.
Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'interviews en même
et
temps, donc je suis bien obligée de faire des choix, enfin pas forcément, voilà, je peux pas tous les avoir à
si
à
ça
cause
peut
de
vous
ça.
Consoler, je vis avec cette frustration depuis presque 20 ans. Donc, c'est comme ça. Mais Olivier Chaudançon le fait exprès, vous le savez, hein, de mettre comme ça des réunions au même moment, et c'est une bonne chose. On est obligé de choisir, et malheureusement on est obligé aussi parfois de papillonner, et c'est très très difficile de dire tiens, je fais un quart d'heure avec un tel, puis un quart d'heure avec un autre, puis une demi-heure après, et bon.
Et... Moi, je reste. En général, je fais un interview, mais je reste jusqu'au bout parce que je les écoute en même temps que je les photographie. Parce qu'à chaque fois, en sortant de l'interview, je sais ce que je vais dire. Je ne sais pas encore l'angle, mais je les ai entendus, je les ai vus et j'ai chopé déjà quelque chose.
Et c'est vrai que dans votre exposition, il y a des mots, il y a des phrases. Vous complétez la photographie par l'expression.
Oui, voilà. Je déplie ce langage qui je leur soumets à tous, par contre. Ça, j'y tiens absolument. Et tous m'ont répondu gentiment. Dont certains, je suis assez contente d'avoir obtenu quelques mots.
Si jamais vous avez des refus, vous me le dites. on se retourne vers les correspondants. Non, mais
En général, ils sont tout à fait bienveillants. Ils accueillent la démarche en me disant « Oh, tiens, oui, effectivement ». Alors, et leur retour est...
J'ai une explication à ça, c'est que effectivement l'équipe des correspondances, et notamment Olivier Chaudançon, mais Evelyne Pravidlo, Arnaud Catherine, savent transmettre aux écrivains qu'ils rencontrent par ailleurs, et notamment à Paris ou dans des salons, les qualités de Manosque, les qualités d'écoute et les qualités de convivialité qui se passent à Manosque. René en parlait tout à l'heure, et c'est très important parce que ils vont pas au Salon du Livre de Paris comme ils vont aux correspondances. Ils ne sont pas noyés dans une masse. Exactement. Ils sont dans ils vont parler devant plusieurs centaines de personnes sur la place de l'Hôtel de Ville, par exemple. Et ils savent que le public est exigeant. Ils savent que le public est connaisseur. Et en même temps, c'est un exercice difficile que de parler sur une scène. Donc je suppose, Olivier, que vous briefez, entre guillemets, les écrivains qui viennent. Pour quelques-uns, en tout cas.
On leur donne des indices. D'abord, ils savent qu'ils sont choisis. En effet, on a une quarantaine d'invités, non pas 300. On voit avec eux de quelle façon ils veulent prendre la parole. Est-ce qu'il s'agit de commenter leur livre? Est-ce qu'il s'agit plutôt de le lire? Est-ce qu'il s'agit plutôt d'en faire une performance? Donc, il y a une attention, quand même, qui est donnée à ça. Et puis, il y a un élément aussi d'organisation, tout bête, mais qui me semble fondamental. Contrairement à pas mal d'autres événements, on leur dit pas, vous arrivez 2 heures avant votre rencontre, et puis ensuite, une fois que vous avez terminé, le train part à telle heure. On leur propose de séjourner à Manosque pendant la durée qui leur convient, tout le festival s'ils le souhaitent, pour prendre le temps, pour rester là, pour rencontrer les gens, pour s'écouter entre eux. Il y a très peu d'endroits où les écrivains vont écouter d'autres écrivains. Je vois qu'ils vont aussi beaucoup aux lectures du soir. Donc voilà, ils participent pleinement. Et du coup, je pense que ça dilue un petit peu le risque de... ou ça dilue un peu les égos. On devient plus attentionné aux autres, que ce soit les autres écrivains ou le public. Voilà, je crois que ça crée quelque chose de particulier. D'ailleurs, il y a beaucoup de projets artistiques qui sont nés là, pendant le festival, et qui vont ressurgir ou aboutir 1 an, 2 ans après. Mais voilà, il y a des rencontres artistiques et littéraires qui se produisent ici et qui donnent quelque chose quelque temps après.
Et c'est vrai que de croiser dans la rue un Alain Mabankou qui cherche une boulangerie, par exemple, ou un Dany Laferrière qui cherche un bistrot, ça c'est plus facile à trouver quand même à Manosque. ou Magid Djerfi qui cherche autre chose, peu importe, c'est toujours assez sympathique, et en même temps ils sont attendus à Manosque, donc ils savent qu'on va les reconnaître.
Ils savent qu'il y a un public abondant, ils savent qu'il y a un public attentif, ils savent qu'il y a un public qui, pour une partie, aura déjà lu le livre, parce que c'est un peu la frénésie pour prendre un peu d'avance et préparer son parcours dans les correspondances. Donc, ça donne vraiment une qualité de public très remarquable. Et là, j'ai même pas besoin de le dire, les écrivains se le disent entre eux.
Et puis, il y a aussi l'approche que fournissent nos amis de la médiathèque d'Herbès avec les apéros littéraires et le labo de l'édition avec cette année Mariam Majidi qui vient et dont le livre a été enfanté, entre guillemets, grâce aux lecteurs de la médiathèque.
Oui, ça c'est une belle histoire. Depuis quelques années, nous proposons le labo de l'édition, c'est-à-dire un éditeur, une petite maison, le Nouvel Attila, qui soumet au comité de lecture quelques manuscrits en leur disant « Écoutez, moi j'ai reçu ça, je me pose des questions, est-ce que je publie, est-ce que je publie pas ? Mettez-vous dans la peau d'un éditeur et vous, que feriez-vous et sur quels arguments ?» Et c'est vrai que l'année dernière... Il y avait le manuscrit de Mariam Majidi, que le comité de lecture a lu, avec des commentaires très élogieux, il faut le dire. L'éditeur partageait cet avis-là, a publié le livre, en effet remarquable, qui a reçu entre-temps le Goncourt du premier roman, donc il nous semblait intéressant, un clin d'œil, plus qu'un clin d'œil, d'inviter cette année Mariam Majidi, qui avait donc été lue avant même d'être publiée.
Et son livre, c'est Marx et la poupée, c'est un superbe livre et qui est aussi un plaidoyer pour la culture française et la langue française, en même temps que c'est un plaidoyer pour ce magnifique pays qu'est l'Iran.
Et on aura pas mal de plaidoyers pour la langue française, on y faisait allusion tout à l'heure. Mais
Il faut la défendre, Olivier, il faut la défendre.
Oui, il faut être plusieurs, et on est plusieurs, justement. Ceux qui ont commencé à lire ou lu le livre de Kamel Daoud, par exemple, verront qu'on se situe pleinement dans ce propos-là.
Retour en plateau pour cette première édition des Correspondances 2017, et nous allons parler évidemment littérature avec notre ami René Frény. Rebonjour René.
Salut.
René qui a signé un ouvrage qui est sorti il y a déjà quelque temps chez Gallimard, Les Vivants au prix des morts. Manosque évidemment connaît bien René Frény, qui depuis plus de 30 ans s'est fait une place dans les librairies de France avec son univers sombre et poétique, sensuel et violent, à l'image de cette Haute-Provence où il vit, des ateliers d'écriture en prison, pour tendre la main et la plume à des fauves en cage. René nous a habitués à sa présence physique dans ses livres, on ne s'en plaindra pas. Première question, René, et parce que nous sommes pas tous marseillais, des explications sur le titre de ton roman.
D'abord, je dois dire qu'en écoutant l'expo, je vais faire une expo moi aussi, parce que nous sommes assez narcissiques, nous les écrivains, je vais faire une expo sur le nombril des écrivains. Je crois que c'est plus évocateur que nos mains. Alors, le titre du livre, je disais tout à l'heure que j'étais plus dans la rue que dans les écoles à Marseille, et il y a ce cri que j'ai entendu durant toute mon enfance, parce que vers le coup de midi, j'étais sur le Vieux-Port, c'est l'endroit où il fait bon, même l'hiver, et j'entendais les poissonnières qui criaient à midi pile, lorsque les 12 gouttes de minuit tombaient du clocher des Accoules, on entendait les poissonnières qui criaient « les vivants au prix des morts ». Et elles vendaient leurs poissons à partir de midi, « les vivants au prix des morts ». Et donc les touristes se demandaient un peu, vu le nombre des règlements de compte qu'il y avait eu dans les quartiers, de quoi on parlait. Donc il y a cette confusion dans mon livre, il y a à la fois les cris des poissonnières sur le Vieux-Port et le fracas des règlements de compte dans l'arrière-ville.
Alors l'histoire de ce livre, Les Vivants au prix des morts, elle est très simple. Hein. L'écrivain qui a participé à pas mal d'actions, notamment des ateliers d'écriture en prison, l'écrivain, il sera sollicité par un bandit en cavale qu'il a connu en prison lors de ses ateliers d'écriture. Il sera entraîné dans un tourbillon qui a risqué carrément de le broyer. L'écriture joue un rôle majeur dans Les Vivants. Élément stabilisateur pour l'écrivain, certes, elle est le lien avec l'ancien détenu qui, on le verra à la fin du livre, a bien appris la leçon et en tire avantage. Avec trois personnages principaux, René, d'abord René, évidemment, Kader, ce personnage, et puis Isabelle aussi, la douce institutrice sur qui René se repose, et avec beaucoup de tendresse, mais aussi beaucoup de sollicitude.
Eh bien, tu as tout dit, hein ?
Non, j'ai pas tout dit.
Tu veux que j'en dise encore un peu ?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Mais comme tous les livres, c'est une chronique. C'est avant tout une chronique sur l'hiver. Moi, j'ai commencé un cahier parce que le cahier était rouge, parce qu'il était doux, parce que je suis un sensuel moi aussi. J'ai caressé ce cahier comme on fait l'amour. Et c'est en caressant le cahier que j'ai commencé à écrire avec ma plume. Et je n'ai parlé que de l'hiver. J'ai parlé de la neige, des sangliers, du ciel, des nuages, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas de raconter des histoires, c'est d'écrire, d'écrire sensuellement et de trouver justement le bruit des mots. Comme on écoute une rivière l'après-midi, écouter le bruit des mots. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Comment on construit une musique avec des mots? Et puis, malgré tout, le 15 janvier, j'ai reçu ce coup de téléphone. Un détenu qui avait été mon élève au Beaumet pendant des années venait de s'évader. Il avait besoin d'un coup de main et je lui ai donné rendez-vous ici à la Barbotine, à Manosque. Et à partir de là, mon cahier rouge a basculé d'une chronique d'hiver en un roman noir. Je dis roman noir parce que je n'aime pas les romans policiers, je n'aime pas les enquêtes, je ne suis bien qu'en dehors des commissariats. J'aime le roman noir parce que dans le roman noir, il y a une atmosphère, un peu comme dans les films d'Hitchcock. Et ce livre est comme un film d'Hitchcock. On part de la paix de l'hiver, de la tranquillité des collines, du bruit d'une rivière, et petit à petit, l'atmosphère s'épaissit, on bascule dans le chaos, dans le roman noir. Alors que dans le polar, il y a une enquête. On part du chaos, on part du crime, et on va vers la résolution. On va vers l'ordre. Moi, je pars de l'ordre et je vais vers le désordre. Voilà, j'adore le roman noir.
Et tu laisses d'ailleurs les policiers faire leur travail dans ton livre. Tu les laisses de côté par rapport à l'action et c'est pas plus mal. Je vais te lire un extrait de ce livre. C'est l'écrivain, justement, René, donc, qui parle de Kader, qui est cette personne, et qui cite à un moment un truand qui s'appelle Maldera, qui est un truand sombre de Marseille. Alors, voilà ce qu'il dit. Je m'étais retrouvé par les détours insensés de la vie aux côtés de Kader. C'est l'écrivain qui parle. Je l'avais aidé, protégé, j'étais devenu son complice. Quelle absurdité! Kader était-il meilleur que Caldera, Mario et leurs semblables? Était-il plus humain, plus honnête? Avait-il une parole? Pourquoi l'avais-je aidé, lui? Il venait du même monde cruel que ceux qui l'éliminaient. Il avait connu les mêmes blessures, les mêmes humiliations. Il était habité par la même haine. Non. Kader n'était pas meilleur que tous ceux qui étaient nés, avaient grandi, vécu dans les cités cruelles, et la prison était la plus barbare de ces cités. Comment aurait-il pu être meilleur après 20 ans passés dans un monde où régnait l'égoïsme, la brutalité, la perversion? J'étais le complice d'un homme que la vie avait rendu monstrueux. C'est tout dire, ça.
Oui, je n'ai jamais connu, rencontré de vrais monstres, même en prison. Je pense que c'est la vie qui nous rend monstrueux à leur contact. Depuis des années, je m'aperçois qu'en moi, il y a tout un tas de petits monstres qui ne demandent qu'à croître, et en eux, il y a tout un tas d'écrivains, d'êtres humains qui ne demandent qu'à grandir. Il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de mur entre le monstre et l'écrivain, par exemple, entre l'être humain et le cruel. C'est ce que je constate depuis 20 ans. C'est la vie, c'est le déterminisme de la vie, selon que vous grandissez dans les quartiers nord ou dans les quartiers sud. Tout est là. On devient monstrueux. Et la prison, au lieu d'éloigner le criminel, la prison renforce le crime. Ils sont entre eux. Ils n'échangent que leurs crimes, leurs braquages, leurs vols. Ils n'échangent que ça. Et moi, je leur apporte des mots. Et je m'aperçois qu'avec des mots, ils se transforment autrement. Voilà, c'est un vivier, la prison, un vivier de crime. C'est l'université du crime. Alors que nous devrions transformer la prison en université de mots. Je pense que la vraie rédemption, elle est là. Par le langage, par le lien social. Ce que nous faisons ici pendant les correspondances. Il faudrait des correspondances en prison tous les jours. Des gens qui écrivent aux prisonniers et des prisonniers qui leur répondent. Il n'y a que comme ça qu'on transforme un homme. Donc Kader surgit. Mais ce que je voulais dire dans ce livre, c'est que Kader, c'est pas seulement l'homme qui me téléphone un jour, qui vient de s'évader, les armes à la main, et qui tue. Kader, c'est quelqu'un qui est en moi et qui va se mettre à croître. J'écoutais un fait divers. Vous savez, il y a 40 ans, on dit que Ranucci, qui a été guillotiné, a enlevé une petite fille et l'a égorgée. C'est peut-être lui, c'est peut-être pas lui. Toujours est-il que cette petite fille à Marseille a été enlevée et a été égorgée. Et son frère, qui avait quelques années, a assisté, a presque pu sauver sa sœur, mais il ne l'a pas sauvée. Et depuis 40 ans, il vit avec la culpabilité de n'avoir pas sauvé sa sœur, et cet homme a tué 2 personnes. Il n'était pas destiné à devenir monstrueux. Il a tué quelqu'un il y a 20 ans et il vient de retuer quelqu'un aujourd'hui. Et je crois que ce que j'ai voulu dire dans ce livre, c'est qu'un jour, on est percuté par un petit morceau de réalité qui entre en nous comme un petit morceau de fer, mais on ne le sait pas. Et ce morceau de réalité va se mettre à grandir, à grossir et va créer en nous le monstre qu'on sera plus tard. Un crime, ça met 40 ans à se préparer. Et le frère de la petite Dolores, qui était un enfant de Marseille, comme tous les enfants qui jouaient autour des immeubles, Aujourd'hui, il est doublement emprisonné, doublement monstrueux. Il a tué deux fois, mais il a tué parce qu'il essaie de tuer en lui cet homme qui n'a pas compris, Ranucci, ou l'homme coupable de n'avoir pas sauvé sa sœur.
On n'est pas si éloigné de la littérature et de l'écriture de René Frény, effectivement, quand on parle de ces choses-là. Mais on va revenir à ton livre, si tu veux bien. À un moment, l'écrivain a besoin d'autre chose, quoi, parce que c'est tellement pesant, cette histoire avec Kader. Donc il va s'abrutir complètement par le travail, par un travail physique. Il va être à la limite de la rupture avec son amie, la belle institutrice. Tu l'as vécu, ça, toi?
Mais je l'ai vécu, puisque pendant 10 ans, j'ai été mis en examen, j'ai été mis plusieurs fois en garde à vue. J'ai voulu revenir un peu sur cette histoire, mais par le biais du roman, parce que les personnages de roman sont beaucoup plus forts que notre réalité. On mourra tous, nos personnages peut-être. Moi, je vis tous les jours avec Meursault, Camus est mort. Je vis tous les jours avec Bardamu, Céline est mort. Donc, on invente les personnages qui sont beaucoup plus grands que nous. L'histoire de René Frény n'est pas très intéressante. Mais ce que j'en fais dans le roman, je pense que c'est une dilatation de mes émotions. Et Kader, c'est rien d'autre qu'un autre moi-même, un peu comme Robinson et le double Bardamu dans Voyage au bout de la nuit. Voilà, Kader, c'est moi-même. Mais c'est moi-même dans un état de dilatation, de monstruosité que je n'ai pas atteint dans la vie.
Alors, je disais tout à l'heure qu'il avait utilisé à son avantage, Kader, les ateliers d'écriture. Il n'écrivait pas pendant les ateliers d'écriture, et tu as déjà eu des personnes dans tes ateliers qui n'écrivaient pas, qui écoutaient simplement. Par contre, à la fin du roman, il a fait un petit courrier à l'écrivain, à toi, et dans ce courrier il y a deux sens, et un sens, évidemment il faut laisser le lecteur lire tout ça, mais un sens qui veut dire qu'il maîtrise parfaitement l'écriture, mais aussi la psychologie de l'écrivain.
Oui, Kader, que j'ai eu en prison réellement pendant 4 ou 5 ans, n'a jamais écrit une ligne. Mais je n'interdis pas mon atelier aux gens qui n'écrivent pas, peu importe. Moi, j'ai été un mauvais élève, je sais ce que c'est que de ne pas écrire, de ne pas lire. Et on apprend toujours quelque chose en écoutant. Kader, pendant 4 ou 5 ans, a écouté les autres parler. Il s'exprimait peu, parce que c'est loin d'être un intellectuel, ni même un autodidacte, mais il a appris énormément de choses en nous écoutant. Il a beaucoup ri aussi. Un atelier d'écriture, c'est un moment de convivialité, de rire, on se raconte des blagues, on parle des femmes, on parle de la vie, et on est bien ensemble. Et c'est parce qu'on est bien ensemble qu'on progresse aussi dans la littérature, dans la culture, dans l'humanité. Et Kader est sorti de prison différent, malgré qu'il n'ait jamais écrit un seul mot. Il a écouté, et cet homme a été transformé. Et je l'ai vu dans son évasion. Il est resté plusieurs mois évadé, et nous avions de longues conversations dans les pizzerias de Manosque ou ailleurs. Cet homme se souvenait de tout ce qui avait été dit dans l'atelier d'écriture, et il n'avait jamais écrit un mot.
René, on est en plein dans le festival Les Correspondances, et c'est une lettre qui est justement adressée à René, et qui émane de Kader, et qui va faire basculer notamment la vie du fils de Kader. C'est un symbole.
Ben c'est un symbole. J'ai voulu raconter l'histoire de cet homme qui s'évade pour voir son fils. Son fils l'a vu au parloir pendant des années. Je connais son fils, je connais Kader, je les ai vus ensemble. Et c'est bouleversant de voir cet homme qui s'évade pour voir son fils dehors, en dehors d'un parloir. Et qui a été repris d'ailleurs par la police alors qu'il avait donné rendez-vous à son fils sur un parking. Il le voyait clandestinement, mais l'intensité d'amour, de tendresse qu'il y a entre cet homme qui s'est évadé plusieurs fois, qui a certainement braqué de multiples banques, qui a peut-être tué aussi, ça ne me regarde pas. Mais cet homme qui est considéré comme un monstre et qui a une tendresse avec son fils qu'il aime plus que tout. Et il se fait reprendre par la police sur un parking en allant retrouver son fils. Je trouvais que pour parler de tous ces gens-là, ils représentaient aussi ce qu'ils n'ont pas, quand on lit leur vie dans les journaux, une immense tendresse.
Il lui donne aussi un bel héritage, ça vous le lirez dans le livre de René Frény. René, tu es en représentation, entre guillemets, pour Les Vivants au Prix des Morts, c'est demain jeudi à 15h, place de l'Hôtel de Ville. Comment tu appréhendes, toi, cette rencontre à deux pas de chez toi?
Ah, c'est celle qui me fait le plus peur dans l'année, parce que quand on arrive à Lille, à Roubaix ou à Metz, on parle à des gens qu'on ne connaît pas. Si on dit une bêtise, on reverra pas les gens le lendemain, ils vont vous oublier. Là, je parle à des gens qui me voient tous les jours, qui me disent « Mais qu'est-ce que tu as encore raconté sur la place de l'Amérique ?» Donc, c'est quand même plus impressionnant qu'ailleurs. Tu parles à des visages que tu vois, une personne sur deux, sur la place de la mairie, c'est énorme. C'est, nous, les écrivains, on parle à 30 personnes, 40 personnes maximum. On est content quand il y a 40 personnes dans une librairie. Et là, tu te retrouves avec 400 personnes, mais sur 400, j'en connais 200. Et tous me regardent en attendant que je fasse un faux pas. C'est normal, c'est le jeu. Et j'ai une trouille bleue de parler sur la place de la mairie.
Bon, on va faire un club d'encouragement à René Frény pour t'enlever cette trouille bleue jeudi, demain, à Manosque. René, que dire de plus ? Tu es aussi un lecteur en même temps qu'un écrivain. Il y a des pointures qui viennent à Manosque et que tu apprécies dans le programme 2017 ?
Oh, ben, je les connais presque tous, sauf les premiers romans que je n'ai jamais vus, mais tous les gens dont vous avez parlé, Mabankou et les autres, je les côtoie, on mange ensemble, on rit ensemble, on devient amis grâce au fait du livre, parce que l'écriture est un monde très individualiste. On est seul avec notre cahier ou notre ordinateur, on est seul sur la table des librairies, on est même en concurrence, on est en concurrence pour les prix littéraires, pour la place dans la librairie, on est en concurrence partout. Et brusquement, dans une fête du livre comme les correspondances, on mange ensemble, on est dans le même hôtel, on est dans le même café, on parle, on apprend à se connaître, à s'apprivoiser, et les murs tombent entre nous. Alors que nous sommes en rivalité pour tout. Si vous êtes sur la liste du prix Goncourt, vous détestez les 13 autres qui sont sur la liste du prix Goncourt. Vous espérez leur mort. Et c'est pareil pour tout. Alors que là, on est ensemble, on s'aperçoit qu'ils sont comme vous, un peu perdus. Et on oublie la rivalité. On rit ensemble, on mange ensemble, parfois on dort ensemble.
Ça, je n'irai pas jusque-là, mais bon, on va retenir quand même, vous espérez leur mort, et puis l'exposition sur le nombril des écrivains. Merci encore, René, d'avoir été mon invité, et puis bien sûr, on suit ta carrière avec grand intérêt, et on retrouve notre belle Haute-Provence qu'on admire dans ton œuvre, et ça nous fait bien plaisir d'entendre parler de Manosque, de la Barbotine ou de Vinon.
J'ai perdu l'image, moi, des correspondances. Il y a quelques années, je marchais le matin et je traverse un jardin. Une petite fille était en train de faire un dessin. Elle avait 4 ou 5 ans. Elle était seule dans le jardin. C'était pendant les correspondances. Et je me suis penché vers elle. Je lui ai dit « Tu écris à quelqu'un ?» Et elle m'a dit « J'écris au monde entier pour lui dire bonjour. » J'ai trouvé ça magnifique. Même les enfants de 3-4 ans écrivent au monde entier. Mais ça pourrait être symbolique des correspondances. Nous écrivons au monde entier pour lui dire bonjour.
Merci René Frény et bon festival. Merci aussi Olivier Chaudançon. Merci Jacques Méni. Merci Patricia Boucher. Et puis aussi merci Amandine pour la régie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, j'aurai le plaisir de recevoir Marie-Christine Aveline, Maya Michalon, Bastien Lallemand et David Lafort, et puis Pierre Mrégène qui gère les éditions Harpo et. Merci, à bientôt, bonne correspondance.
Merci à vous, une bonne journée sur Fréquence Mistral.